Vous écoutez, on lit pour vous.
L'ennemi invisible du cerveau. Un dossier de Valérie Simard, paru le 9 février 2026 dans La Presse. La pollution de l'air n'affecte pas que le cœur et les poumons. Dépression, stress, démence. L'air que nous respirons pourrait aussi avoir un effet déterminant sur la santé de nos cerveaux. Nous sommes tous affectés. Errol Thompson marche régulièrement pour se rendre à son laboratoire. Il ne possède pas de voiture et évite les grands axes routiers. C'est une façon pour ce chercheur, qui consacre sa carrière à étudier les effets de la pollution atmosphérique sur la santé, de s'en prémunir le plus possible. Nous n'avons pas le choix individuel de l'air que nous respirons, dit le chercheur, qui dirige le laboratoire de toxicologie d'inhalation de Santé Canada. À chaque respiration, nous inhalons notre environnement et tout ce qui va avec. Il ne vit pourtant pas à New Delhi ou à Mexico, mais à Ottawa, une ville où la qualité de l'air est généralement considérée comme bonne. Il n'est ni asthmatique ni cardiaque. Pourquoi s'en faire, alors? Les épidémiologistes ont constaté que les effets de la pollution atmosphérique persistent jusqu'aux niveaux les plus bas qu'ils peuvent mesurer. Cela signifie qu'on n'a pas été en mesure d'identifier un seuil de sécurité, rappelle le chercheur. Dans cet édifice fédéral, situé à quelques kilomètres de la colline parlementaire, son équipe étudie les effets des substances inhalées sur la santé. Parmi elles, les polluants atmosphériques, comme les particules fines émises par les automobiles, les industries et les incendies de forêt. Des substances au diamètre si petit qu'elles parviennent à se frayer un chemin jusqu'au cerveau. Des études, de plus en plus nombreuses, les montrent du doigt dans le développement de troubles neurocognitifs comme l'Alzheimer et la démence, de la dépression et dans la production du stress. Il y a 20-30 ans, on ne s'intéressait qu'aux effets respiratoires et cardiovasculaires de la pollution atmosphérique, remarque Errol Thompson, aussi professeur à l'Université d'Ottawa. Ce n'est que plus récemment que l'on a pris conscience que l'organisme tout entier est touché, et nos propres travaux ont démontré qu'aucun tissu n'y échappe. Une étude qu'il a menée en collaboration avec l'Université de la Colombie-Britannique a démontré que lorsque des polluants atmosphériques sont inhalés, même pendant une courte période, le corps réagit en produisant du cortisol, aussi appelé hormone du stress. Au laboratoire, les participants ont été exposés soit à de l'air pollué, équivalent à l'air auquel un piéton est exposé dans une rue où la circulation est dense, soit à de l'air filtré, mais ne savaient pas à quoi ils étaient exposés sur un jour donné. Ceux qui avaient respiré de l'air pollué présentaient un taux de cortisol plus élevé. Cette augmentation était plus importante chez les personnes asthmatiques, ce qui pourrait indiquer qu'elles sont plus sensibles aux polluants atmosphériques. Une autre étude qu'il a menée à Montréal a aussi montré une hausse de cortisol dans la salive d'automobilistes exposés à la pollution dans l'habitacle de leur voiture. L'équipe Daryl Thompson, tente maintenant de comprendre les effets des différents polluants sur la santé et la manière dont les différences individuelles peuvent influencer la réaction du corps. Plus de psychose. À Créteil, en banlieue parisienne, c'est le lien entre polluants et troubles psychiatriques qui intéresse les chercheurs de l'Institut Mondor de recherche biomédicale, IMRB. Ils ont comparé les pics de pollution au nombre d'admissions aux urgences psychiatriques de l'hôpital Henri Mondor entre 2008 et 2018. Les jours où la qualité de l'air était mauvaise, les admissions aux urgences, notamment pour psychose et dépression, ont augmenté d'environ 5 %. Ce n'est pas un effet très fort, mais il est significatif. Analyse Stéphane Jamin, directeur de recherche à l'IMRB. Il n'en est pas l'un des auteurs, mais l'étude a été réalisée par des membres de son équipe. En 2020, une revue systématique de littérature a conclu à des associations statistiquement significatives entre pollution et visite aux urgences pour troubles psychiatriques. Généticien Stéphane Jamin s'est intéressé à ce sujet après avoir constaté que les personnes vivant dans de grandes villes ont plus de risques de développer des psychoses. Malgré des facteurs plus présents comme la détresse sociale et l'isolement, la pollution atmosphérique joue également un rôle, rapporte-t-il. Son équipe mène des recherches sur des souris qu'elle expose à une atmosphère complexe en laboratoire, équivalente à celle qu'on peut respirer dans certaines villes. Elle espère ainsi mieux comprendre le lien de cause à effet de divers niveaux d'exposition sur le développement cérébral et le comportement. Dans la communauté scientifique, l'hypothèse la plus acceptée est celle de la neuroinflammation. La petite taille des particules fines et ultra-fines, surtout celles inférieures à 2,5 micromètres, PM2,5, leur permettrait de circuler dans le sang et de franchir la barrière hémato-encéphalique qui empêche normalement les toxines de passer du sang au cerveau. Elles y causeraient de l'inflammation et du stress oxydatif, ainsi qu'une activation des cellules de défense du système nerveux central, les cellules microgliales, qui sont importantes notamment pour l'élimination et le remodelage des synapses, lieux de communication entre les neurones. Les hormones du stress, étudiées par l'équipe Daryl Thompson, sont, quant à elles, libérées par les glandes surrénales après avoir reçu un signal du cerveau. Son équipe de recherche travaille à comprendre l'influence des polluants à l'aide d'un système de culture cellulaire in vitro. C'est un véritable défi, affirme Harold Thompson. Grâce aux travaux de Mercedes Rose, candidate au doctorat, les chercheurs ont compris que le fait de mettre en contact des cellules du cerveau avec le plasma de personnes exposées à la pollution atmosphérique permet de reproduire les effets observés dans le cerveau. Il y a quelque chose d'important qui est transmis par le sang et qui a un effet sur le cerveau, soutient Harold Thompson. Et ultimement, sur tout le corps, puisque presque toutes les cellules sont sensibles aux hormones du stress, ajoute-t-il. Le stress chronique est associé à l'affaiblissement du système immunitaire, aux maladies cardiovasculaires, à la dépression, à des troubles métaboliques, à une fonction cognitive diminuée. Vous écoutez? L'ennemi invisible du cerveau. Un dossier de Valérie Simard, paru le 9 février 2026 dans La Presse. Tous à risque? Comme le cœur et les poumons, les cerveaux ne sont pas tous égaux face à la pollution. Des études montrent que les femmes seraient plus vulnérables, de même que les enfants et les adolescents. Mais Errol Thompson a cette certitude. Nous sommes tous affectés. Selon une analyse australienne publiée en 2023, peu de gens y échappent. En 2019, seulement 0,001% de la population mondiale a été exposée à des niveaux de particules fines, PM2,5, sous les seuils fixés par l'Organisation mondiale de la santé, OMS, soit des concentrations annuelles moyennes de 5 microgrammes par mètre cube. À Montréal, en 2023, la moyenne annuelle des particules fines, PM2,5, a été de 8,5 microgrammes par mètre cube, alors que celle-ci avait oscillé entre 7 et 7,6 microgrammes par mètre cube entre 2017 et 2022. Des experts avancent qu'il est probable qu'avec la multiplication et l'intensification des incendies de forêt, la qualité de l'air au Canada a fini de s'améliorer. Il existe des preuves qu'une grande partie des progrès réalisés pour améliorer la qualité de l'air au cours des 50 dernières années sont en train d'être perdus à cause des incendies de forêt, voire réduits à néant, affirme Ryan Allen, professeur de sciences de la santé à l'Université Simon Fraser. Même si beaucoup reste à comprendre sur la façon dont la fumée des incendies de forêt affecte le corps humain, pour Errol Thompson, il ne fait donc aucun doute que ces épisodes de fumée sont mauvais pour notre santé. Le chercheur compare la pollution atmosphérique à un précipice. C'est comme si elle poussait légèrement toute la population vers le précipice. Certains d'entre nous finissent par tomber, mais nous nous en approchons tous un peu plus sans nous en rendre compte. Des polluants invisibles. Les PM2,5 sont des particules fines ayant un diamètre de 2,5 micromètres ou moins, soit 30 fois plus petit qu'un cheveu. Les PM10 sont légèrement plus grosses, moins de 10 micromètres. Les particules fines proviennent de la circulation automobile, des industries, du chauffage au bois et des incendies de forêt, ainsi que de la poussière émise par les sites de construction. Parmi les autres polluants atmosphériques, on retrouve l'ozone, O3, le dioxyde d'azote, NO2, le dioxyde de soufre, SO2, et le monoxyde de carbone, CO. En savoir plus, source Santé Canada. 17 000. Estimation du nombre de décès prématurés causés par la pollution atmosphérique chaque année au Canada, dont 4 000 au Québec. De multiples effets. Troubles du spectre de l'autisme. L'exposition aux particules fines, PM2,5, est associée à une augmentation significative du risque de troubles du spectre de l'autisme, TSA, chez les enfants, en particulier si l'exposition a lieu au cours du troisième trimestre de la grossesse ou pendant la petite enfance. Ce lien a été confirmé par une méta-analyse publiée par la Harvard T.H. Chan School of Public Health en 2021. Démence. En 2020, la commission Lancet a ajouté la pollution atmosphérique comme facteur de risque pour la démence. Une étude publiée la même année par des chercheurs québécois suggère que la démence pourrait être liée à l'exposition au PM2,5 et au dioxyde d'azote, ainsi qu'à la distance de la résidence par rapport aux grands axes routiers. Plus récemment, des chercheurs américains ont établi un lien entre les particules fines et la maladie à corps de Lewy à partir des données de 56,5 millions d'Américains. Des tests sur des souris ont ensuite démontré une atrophie du cerveau lorsqu'elles étaient exposées à des particules PM2,5. Suicide. En Chine, des chercheurs ont observé une hausse de 25 % du taux de suicide hebdomadaire lorsque les particules fines PM2,5 augmentent de 1 %. Ils estiment que l'amélioration de la qualité de l'air dans le pays a contribué à une baisse de 10 % du taux de suicide entre 2013 et 2017. Une étude canadienne a aussi montré une association entre l'exposition aux polluants, ozone, dioxyde d'azote et PM2,5, et le nombre de suicides, mais plutôt de l'ordre de 2 à 4,7%. Dans les deux cas, les femmes ont présenté une plus grande vulnérabilité. Anxiété chez les adolescents. Chez les adolescents, la pollution atmosphérique est associée à une augmentation des symptômes dépressifs et anxieux. L'inflammation causée par l'exposition aux particules fines serait en cause. De plus en plus de preuves scientifiques indiquent que les filles seraient plus touchées. C'était l'ennemi invisible du cerveau. Un dossier de Valérie Simard, paru le 9 février 2026 dans La Presse.
Zone de turbulence. Il n'y a pas de grande rationalité derrière ce retournement du monde dont le Bureau Oval est à l'origine. Un texte d'Élisabeth Vallet, professeure en études internationales au Collège militaire de Saint-Jean, texte publié dans Le Devoir du 11 avril 2026. La nuit tombée, il arrivait que Nixon, seul, éméché, le cheveu en bataille et effondré dans un fauteuil, agrippe son téléphone pour réclamer un plan d'attaque, ordonner un bombardement, invectiver et menacer chefs d'État étrangers et généraux américains pour s'abîmer enfin dans un sommeil lourd de psychotropes et d'alcool. Citation, « S'il avait pu faire ce qu'il voulait, il y aurait eu une guerre nucléaire chaque semaine. » Fin de citation, disait Kissinger. Était-il fou au point de précipiter le monde vers la bise? Était-il véritablement prêt à faire n'importe quoi pour conclure la guerre, comme il le clamait? Lors de ce moment de grande insécurité internationale, la dissuasion par irrationalité, c'est entre guillemets, devenait un levier redoutable, d'autant plus efficace qu'une poignée de conseillers aguerris en politique étrangère, au nombre desquels Henry Kissinger et Alexander Haig formaient un rempart rationnel. Mais voilà, le président actuel n'est pas nixonien, et la « théorie de l'homme fou » entre guillemets est passée aux travaux pratiques. Du Venezuela au Groenland, de Cuba à la Colombie, du Canada au Japon, de l'OTAN à l'Iran, il n'a plus de limites. Même le Vatican est apparu dans sa ligne de mire. Lors d'une rencontre houleuse au Pentagone, où le cardinal Christophe Pierre a été convoqué en janvier, l'Église catholique se serait vue intimer l'ordre de rentrer dans le rang, à en croire un reportage du Free Press, et de soutenir la croisade du secrétaire à la Défense avec en filigrane des menaces à peine voilées d'avigoniser, c'est entre guillemets, la papauté. Car de rationalité, il n'y a point, ni au bureau ovale, ni parmi les thuriféraires qui gravitent autour. Chercher un grand dessein à ses actions, une intelligence à son instinct, revient à octroyer à ce gouvernement une raison qu'il ignore. Les conséquences irréversibles des serments de ce début d'année en attestent. À commencer par l'Iran. Paradoxalement, il se peut que le président ait atteint son objectif d'un changement de régime, à une nuance près, en éliminant nombre des plus modérés, en privant la République de son guide suprême. Les bombardements américains ont consacré l'avènement d'un régime militaire sous la férule des gardiens de la Révolution. Un régime consolidé par de possibles réparations de guerre sous forme de droits de péage sur le détroit d'Ormuz et de levée de sanctions assorties de l'augmentation des prix du pétrole et d'une plus grande emprise sur la population. On est loin d'une révolution démocratique. À l'ouest de là, le conflit génère des effets en chaîne. En Syrie, il pourrait obérer sa stabilité relative et sa reconstruction. En Égypte, le tableau est similaire. Le pays dépend grandement du financement des États du Golfe qui se contractent sous l'effet du conflit, des dividendes du canal de Suez, moindres depuis que la mer Rouge est en proie aux tensions avec les Houthis. Car dans la région, les satellites de l'Iran n'ont pas disparu, ni au Yémen, avec les Houthis, ni au Liban, où, malgré la férocité de l'État hébreu, le Hezbollah se maintient, ni en Irak, où les attaques des milices chiites sont autant de signaux d'alarme pour la stabilité étatique. Les bombardements en Iran oriental ont secoué la zone frontalière du Baloutchistan. Mouvements de combattants, d'armes, déplacements de population, économie souterraine. Or, le Baloutchistan pakistanais est frontalier de l'Iran, mais aussi de l'Afghanistan. C'est un autre front pour un pays comme le Pakistan, lui-même fragile économiquement et politiquement, et qui a mal à partir avec son voisin indien. Sur le front méridional, les États du Golfe ont perdu leur neutralité, alors que leur modèle d'affaires reposait sur une stabilité sans faille. L'assurance stratégique des États-Unis n'est plus, ce qui peut vouloir dire de regarder vers la Russie et la Chine. D'autant plus que l'intervention américaine en Iran sonne le glas d'un monde ancien, celui qui dissociait les puissances négationnistes des autres. Le temps où le renseignement américain voyait les alliances entre ces puissances comme un enjeu de sécurité nationale, est consommé. Xi et Poutine se sont rencontrés plus souvent que tous les autres dirigeants étatiques, un accord de défense mutuelle, Li Pengyang à Moscou, et les transactions entre la Russie, la Chine et l'Iran croissent. Les coûts de cette intervention sont réels. Elle consacre la mort du multilatéralisme économique dans un monde où la ressource énergétique devient arme. L'issue de ce conflit pourrait passer par la remise en cause du régime international, guillemets, de passage en transit, fin des guillemets, sans entrave ni péage dans les détroits internationaux, et en dégarnissant leur front pacifique pour se focaliser sur le Moyen-Orient, les États-Unis jouent avec la tectonique géopolitique. Les stocks de Patriotes sont en deçà du volume jugé nécessaire par le Pentagone et la reconstitution de l'arsenal de THAAD devrait prendre plusieurs années. Or, les Patriotes THAAD, Tomahawk et autres GASSM, ER, représente un élément central de la dissuasion américaine, vitaux pour les théâtres taïwanais et ukrainiens. De Taipei à Kiev, les vents de face soufflent plus fort que jamais. Les États-Unis en ont d'autant moins les moyens que plane le spectre de la prolifération nucléaire. L'expérience nord-coréenne prouve que l'obtention de l'arme nucléaire aurait sans doute permis au régime des ayatollahs d'être épargné. Dès lors, toute puissance consciente de sa vulnérabilité stratégique sera tentée par le même raisonnement. La progression de l'idée du partage du parapluie nucléaire français à l'échelle européenne en atteste, ce que les menaces du président américain qui envisage de retirer des troupes d'Europe ne font que renforcer. Enfin, la rareté et la hausse du coût du pétrole et du gaz liquéfié, de l'aluminium, de l'hélium, des engrais, entraîne un fort risque d'instabilité. Du Pakistan à la Thaïlande, de la Malaisie au Vietnam et jusqu'aux Philippines, où l'état d'urgence énergétique a été décrété, les secousses se font directement sentir. La pénurie d'engrais résonne d'un bout à l'autre de la planète, de l'Amérique du Sud à l'Afrique, où l'augmentation des prix du blé et du soja est déjà perceptible. Dans un contexte où l'aide internationale est déstructurée, plane désormais le spectre d'une crise alimentaire mondiale et des séismes politiques qu'elle peut engendrer. Il n'y a donc pas grande rationalité derrière ce retournement du monde dont les caprices du bureau Oval sont à l'origine et qui bouleversera autant les États-Unis que le reste de la planète. Pour autant, il ne faut pas se leurrer, il ne s'arrêtera pas là. De fait, terré dans le fond d'une de ses publications nocturnes, il annonce déjà une prochaine conquête. Mesdames et messieurs, veuillez attacher vos ceintures, nous entrons dans une décennie de turbulences. Fin de ce texte d'Elisabeth Zalet titré « Zone de turbulence » au pluriel, publié dans Le Devoir du 11 avril 2026.